Dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment penser la Chine ? Avec notre invité, on en parle, avant de retrouver comme un jeudi sur deux, le rendez-vous de la médiatrice. Notre invité, c'est la sinologue Anne Chang, titulaire de la chaire d'histoire intellectuelle de la Chine, professeure au Collège de France, spécialiste de Confucius. Elle vient de diriger l'ouvrage collectif « Penser en Chine » qui paraît dans la collection « Essais » chez Folio et qui rassemble des contributions du monde entier sur, raconte-t-elle, un pays qui s'est toujours considéré comme celui du milieu et qui se verrait bien comme le monde à lui tout seul. Une pensée collective et un livre bilan, 13 ans après l'ouvrage, « La pensée en Chine aujourd'hui ». Elle a par ailleurs intitulé son cours cette année « La Chine est-elle encore une civilisation ?» Question au cœur de sa réflexion sur la puissance chinoise. Bonjour Anne Chang.
Bonjour Olivia Gesbert.
Merci d'être avec nous. Omniprésente dans les discussions, la Chine a vraiment envahi notre horizon. Mais au fond, que savons-nous vraiment de ce pays ou que pouvons-nous en savoir? C'est plutôt cette question-là qui vous a intéressé, Anne Chang, quand si peu d'images, si peu de mots en ressortent.
Oui, vous avez commencé par présenter le questionnement d'aujourd'hui comme penser la Chine. En réalité, c'est vraiment penser en Chine. Ça, c'est l'objet de cet ouvrage collectif pour montrer que malgré justement le peu de véritables informations qui nous arrivent de Chine. Enfin, vous dites il y en a peu, mais en réalité, on est inondé d'informations concernant la Chine. Mais ce sont des informations soit assez partiale, pourrait-on dire, ou alors qui se cantonne un petit peu au domaine géopolitique. On entend beaucoup les spécialistes de relations internationales, les spécialistes de géopolitique, et on entend assez peu finalement la voix des intellectuels du monde entier qui s'intéressent à la Chine, et encore moins la voix des intellectuels chinois eux-mêmes. Et c'est donc c'est dans cet objectif-là que nous avons conçu ce livre.
Penser en Chine, c'est presque une question miroir hein, avec penser la Chine. Il y a 13 ans, la Chine allait accueillir les Jeux Olympiques de Pékin. 2008, c'est aussi l'année de la crise financière dans le monde. C'est un moment pour vous où la Chine s'est imposée sur la scène internationale, un moment aussi de rupture, voire de fermeture.
2008, oui. Enfin, il se trouve que ça correspond à peu près à la sortie de ce premier ouvrage collectif intitulé « La pensée en Chine aujourd'hui », que j'avais déjà coordonné avec Éric Vigne, qui est un des vraiment grands éditeurs de Gallimard. Et c'est d'ailleurs, en fait, cette envie de travailler de nouveau avec Éric Vigne qui m'a inspiré l'idée de faire ce nouvel ouvrage qui était un petit peu non pas penser en Chine aujourd'hui deux puisque en fait notre objectif cette fois-ci est assez différent et c'est surtout aussi que la Chine a beaucoup changé depuis l'apparition de ce livre et puis 2008 comme vous le dites
vous dites d'ailleurs avoir été animé d'un sentiment d'urgence hein, dans les de ce livre.
Oui, il est vrai que la pandémie a bien sûr accéléré le processus qui était déjà en route depuis un certain temps, mais il est certain qu'avec cette pandémie dans laquelle nous sommes encore englués aujourd'hui, ce sujet devient vraiment brûlant.
La Chine était puissante avant la pandémie, elle l'est encore aujourd'hui, alors même que tout serait parti de là-bas. Comment vous expliquez en un mot, et puis on va venir sur cette pensée en Chine, comment vous expliquez que la Chine soit ressortie renforcée de cette crise ?
Eh bien, enfin pour faire court, je crois que nous voyons là les avantages d'un régime autoritaire, voire dictatorial. Hein. Il est certain que, et je l'ai écrit moi-même, que les premiers signes de l'apparition de ce virus ont été assez mal gérées par les autorités centrales chinoises, parce qu'elles ont essayé d'abord, c'est un petit peu leur réflexe habituel, d'étouffer la chose, enfin en essayant de couper la parole justement aux lanceurs d'alerte. Certains d'entre eux sont morts entre-temps d'ailleurs. C'est ce que raconte également cette blogueuse et écrivaine de Wuhan, Fangfang, qui a été traduite récemment, dont le journal a été traduit par les éditions Stock. Et elle dit très clairement ce qui a été, ce dont elle a été un témoin direct, à savoir qu'il y a eu d'abord un essai d'étouffement, enfin de ces premiers signes, mais ensuite la Chine n'a pas hésité justement à confiner 10 millions, 20 millions d'habitants dans la région de Wuhan pendant 2 mois, ce qui bien sûr dans un pays plus libéral, plus démocratique, aurait été difficile à concevoir. Nous avons en France mis un peu le temps à nous habituer justement à ces contraintes et ces privations de liberté, mais en Chine, c'est possible du jour au lendemain. Et donc, actuellement, la Chine veille évidemment sur la réapparition de ce virus de manière extrêmement attentive, mais et donc, dès qu'il y a un cas de Covid suspecté, immédiatement on confine 10 millions d'habitants. Enfin, c'est ce qui est possible en Chine. Essayez de faire ça en France.
Mais c'est aussi un confinement de la pensée, un confinement de la parole. Vous évoquez ce contrôle et l'enfermement de plus en plus féroce de la population ouïghour, de la répression aussi des mouvements de protestation à Hong Kong, qui a abouti sur cette nouvelle loi sur la sécurité globale. Vous évoquez nationale. Vous évoquez aussi la pandémie, la guerre d'information et de désinformation qu'elle a pu susciter. Cette avalanche de cataclysmes et ces discours tonitruants des dirigeants politiques qui cachent des tendances de fond, des impensés ou plutôt une réalité inaudible. On va écouter Frédéric Haigh qui intervient dans cet ouvrage collectif « Penser en Chine », comprendre aussi ce qui se joue cette année entre 2020-2021 pour la Chine par rapport à 2003 au SRAS.
Alors la Chine est en guerre contre ce nouveau virus. Et Xi Jinping se présente comme un chef d'État en situation martiale. Mais ce qui est assez nouveau depuis une vingtaine d'années, c'est que la guerre contre les maladies infectieuses, qui en fait est un thème classique dans l'histoire de l'Empire chinois et de la République de Chine, prend un nouveau visage avec le SRAS, qui est perçu mondialement comme un 11 septembre asiatique. C'est un virus qui se transmet très rapidement par les avions. C'est un virus dont les premières victimes sont des infirmières, un peu comme les pompiers du 11 septembre aux États-Unis qui sont les premières victimes de l'effondrement des tours. Et donc, dans cette situation, en 2003, la Chine était présentée comme le mauvais élève. C'était elle qui avait ses marchés aux animaux, source de saleté. Aujourd'hui, la Chine veut être au centre de cette nouvelle guerre contre le virus et elle ne veut pas recevoir de leçons de l'OMS ou des pays occidentaux.
Voilà, elle ne veut pas recevoir de leçons et ce faisant, ou pour ce faire, comme vous l'évoquiez, Anne Chang, elle a recours à un modèle de gestion particulièrement autoritaire avec une mainmise de l'État à la fois sur les hommes et sur les territoires, peu de voix discordantes qui peuvent s'exprimer, une répression des lanceurs d'alerte comme on a pu le voir aussi à Hong Kong ou en Chine. Durant cette année si particulière, une société du contrôle encore plus stricte s'est mise en place, mais aussi une société du silence et une société du secret. Qui en Chine ose encore penser et dire ce qu'il pense ?
Oui, là vous faites un tableau effectivement très 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 sombre de ce vaste espace qui est assez peu connu, d'où filtrent peu de véritables informations. En réalité, ce que nous avons essayé de faire dans ce collectif, puisque c'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui, je pense, c'est de montrer que malgré tout, la Chine a quand même une tradition intellectuelle très longue, bien sûr, enfin à laquelle je me suis suis intéressée et consacrée depuis pratiquement 40 ans. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pensée possible en Chine. Simplement, même depuis la Chine impériale, en fait, les intellectuels chinois ont appris à, comme je le dis, torer avec le pouvoir. Et donc, ont appris à biaiser, prendre des chemins de traverse, parler par métaphore, de manière très indirecte, etc. Et donc, c'est cette tradition-là qui continue encore aujourd'hui. Ce qui est quand même inquiétant, c'est que, bien que ces intellectuels continuent à s'exprimer, des blogs comme celui de David Hounbe, mon collègue de Montréal, qui s'appelle Reading the China Dream, c'est un blog en anglais où il traduit de manière hebdomadaire des textes d'intellectuels chinois en anglais. Donc je recommande ce blog à tous ceux que ça peut intéresser. Donc ça montre qu'il y a une vie intellectuelle en Chine, et même jusqu'à une date relativement récente, en fait, des débats publics qui sont évidemment de moins en moins possibles maintenant. Mais toujours est-il que ce qui est tout de même inquiétant, c'est de voir que actuellement tous ceux qui disent un mot de travers, qui expriment une opinion publique qui n'est pas exactement dans la droite ligne définie par le parti, en fait, se font d'abord taper dessus, enfin métaphoriquement ou non, et ensuite carrément arrêter, ou maintenant, selon la dernière mode chinoise, se font disparaître. C'est-à-dire que
ce qui est arrivé à ce professeur chinois l'année dernière, professeur d'université de Pékin, qui avait fait un texte contre.
Disons que là, il y a une pratique effectivement qui est encore plus inquiétante que les emprisonnements, comme par exemple celui du prix Nobel Liu Xiaobo, donc qui est mort pratiquement d'un cancer en prison. Donc ça, c'est d'une certaine façon un peu les conditions classiques, si j'ose dire. Mais actuellement, et ça se pratique aussi beaucoup dans la communauté ouïghour, les gens se font disparaître. C'est-à-dire que le verbe disparaître se conjugue à la voix passive.
Ouais, se faire disparaître.
Oui, et du coup, là, du jour au lendemain, vous ne savez plus où sont les gens, qu'est-ce qu'ils sont devenus, etc. Plus de nouvelles du tout. D'une certaine façon, c'est ce qui est arrivé il y a quelque temps au très renommé artiste Ai Weiwei, qui a disparu tout simplement. Plus personne ne savait où il était, etc. C'est la nouvelle mode, en quelque sorte.
Alors, il y a une expression populaire chinoise qui dit tuer le poulet pour effrayer les singes. Il y a un peu de ça vous évoquez, cette idée de faire disparaître.
Nous avons aussi le cas récent de Jack Ma lui-même, qui d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il s'est fait disparaître lui-même. Je crois qu'il a simplement préféré garder profil très très bas, pour ne pas irriter davantage le pouvoir qui lui avait signifié justement de se calmer un peu. Oui.
Mais alors, vous évoquiez tout à l'heure le journal de confinement de l'écrivaine de Wuhan, Fang Fang, accusé d'avoir aussi déformé la réalité dans son journal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois ce journal, elle a pu quand même le publier en ligne, qu'elle n'a pas été totalement censurée. En tout cas, ce journal, il a été censuré, mais partagé par des millions d'internautes chinois à ce moment-là. C'est aujourd'hui, elle fait quand même l'objet d'une campagne de dénigrement qui est comme un rappel à l'ordre pour elle, c'est ça ?
Oui.
Là, c'est une forme de marginalisation.
Oui, ouais. Enfin, disons qu'elle-même le dit que quand elle a justement commencé à tenir ce blog, elle dit il y avait des gens qui étaient tellement accrochés justement à son blog quotidiennement qu'ils ne pouvaient pas s'endormir le soir avant d'avoir lu sa notice du jour. Alors que maintenant, il y a une espèce de réaction, surtout du fait que son journal a été traduit dans des langues étrangères, l'anglais, le français, etc. Et donc du coup, là, maintenant, il y a une réaction très violente de la part des milieux nationalistes qui évidemment sont très nombreux et influents en Chine et qui essayent d'exercer de l'intimidation aussi sur des universitaires, même à l'étranger.
Hein. Alors voilà, journal traduit notamment en France, One Ville Close, c'est aux éditions Stock par Frédéric Dalléas et Geneviève Imbeau-Bichet. À l'extérieur, qui pense la Chine ?
Je crois que la Chine n'a pas besoin d'être pensée. Enfin, ça, c'est justement ce que je disais dans ma leçon inaugurale au Collège de France, justement en 2008. Hein, on revient à cette fameuse année 2008. Penser la Chine, c'est un peu une démarche orientaliste, on pourrait dire. C'est ce qu'a fait justement cette discipline sinologique que je suis censée représenter. Mais ma position, évidemment, est assez différente. Vous m'avez présenté comme sinologue. Ce qui est très bien parce que je résiste toujours au fait d'être présentée comme philosophe, ce que je ne suis pas du tout. Historienne peut-être, mais disons d'une certaine façon. Sinologue, oui, dans la mesure où évidemment mon sujet de parole privilégié, c'est la Chine. Mais autrement, disons que j'ai une histoire personnelle qui fait que je ne suis pas une sinologue qui prend la Chine comme objet et mon objectif n'est pas de penser la Chine. C'est plutôt justement d'attirer l'attention de mes concitoyens, non seulement ici en France, mais en Europe, un peu partout dans le monde, sur le fait justement que la Chine, comment la Chine a pensé et comment elle essaye de continuer à penser maintenant dans les conditions actuelles.
Oui, et comment la Chine officielle aussi se pense-t-elle, hein? Et c'est une des premières contributions dans cet ouvrage collectif, la Chine, qui s'imagine comme un empire monde. En quoi, Anne Changs, est-ce un fantasme, comme l'auteur l'évoque, et qu'est-ce que ce fantasme alimente ?
Alors, la Chine monde, c'est-à-dire dans les termes chinois originaux, la Chine se représentant comme tout ce qui est sous le ciel, cette notion chinoise de tianxia, donc dont on a parlé pas mal ces dernières années, notamment avec les publications de ce soi-disant philosophe chinois Zhao Tianyang, qui a été placé en dialogue avec notre Régis Debray national. Donc c'est une notion ancienne qui a été un mode de représentation, d'auto-représentation de la Chine impériale jusqu'à l'orée du XXe siècle, mais qui, évidemment, au XXe siècle, a été complètement rejetée par toutes les révolutions successives qu'il y a eu. Donc la première révolution de 1911 qui a instauré la première république de l'histoire chinoise, ensuite le gouvernement républicain de Chiang Kai-shek et bien sûr la révolution communiste de 1949. Donc toutes ces révolutions successives du XXe siècle ont vraiment poussé à la poubelle cette vision, enfin, de la Chine monde, enfin de la Chine sous le ciel. Or là, avec la montée en puissance économique, militaire, géopolitique de la Chine à partir des années 2000, comme conséquence de cette politique de réforme économique de Deng Xiaoping, lancée après la sortie du maoïsme, enfin dans les années à la fin des années 70 et surtout dans les années 80. Donc à partir de l'année 2000, cette politique commence à porter ses fruits, et donc à partir de l'an 2000, du début du troisième millénaire, on voit effectivement cette montée en puissance de la Chine tout à fait spectaculaire, et donc revenir au premier plan justement cette notion de Chine monde. C'est-à-dire que la Chine, c'est pas simplement Zhongguo, le pays du milieu, c'est tout simplement le monde. Et d'une certaine façon, avec cette pandémie, on a une illustration très sinistre, mais c'est quand même une illustration justement de cette mondialisation de la Chine. Alors non seulement parce que le virus nous vient de Chine et qu'il s'est répandu en quelques semaines dans le monde entier, mais il y a aussi le fait que nous sommes rapidement rendu compte que pour faire face à ce virus, nous étions dépendants de la Chine. C'était ça l'ironie tragique, hein, c'est-à-dire pour les masques, maintenant pour les vaccins, etc. Enfin, vous voyez, donc vous me demandiez tout à l'heure comment se fait-il que la Chine s'en tire si bien et pourquoi elle s'impose maintenant vraiment, enfin comme une puissance économique de premier plan sur le plan de point de supplanter les États-Unis. Ben c'est vraiment ça, parce que nous pendant des décennies nous avons misé entièrement sur la Chine pour nous fournir tous nos produits de première nécessité, en quelque sorte.
Oui, ça ramène sur cette idée que vous racontez, défendez, expliquez, analysez dans vos cours cette année, Anne Chang, de civilisation chinoise. Un Pékin se pense comme la Chine se pense comme une civilisation chinoise, une des seules. Alors on pourrait faire le parallèle avec l'Inde, hein, aussi, à qui elle reconnaît aussi cette qualité. Puis peut-être demain la civilisation américaine, pour voir avec qui elle peut rivaliser. Mais ce qui est intéressant, c'est que Pékin oppose cette civilisation chinoise aux valeurs universelles. Pourquoi ? Pourquoi faire ça ? À quelle fin ? Est-ce qu'il y a une validité dans ce récit-là, dans cette opposition ? Ou est-ce que c'est une sorte d'artifice ?
Évidemment, c'est un artifice, mais c'est un artifice qui a un objectif assez clair, me semble-t-il. C'est-à-dire que si la Chine doit se projeter comme une puissance mondialisée, elle doit pouvoir non seulement proposer un récit national, ce qu'elle est occupée à faire, mais également se projeter comme justement la grande civilisation qu'elle est censée avoir toujours été depuis 5000 ans, de façon continue, vous voyez. Alors, j'explique dans mon cours qu'il y a évidemment de multiples paradoxes, enfin, dans cette assertion. C'est-à-dire que, d'une part, c'est quand même un régime communiste qui est en principe fondé sur le dogme marxiste, qui nous raconte ça, que nous sommes dans une civilisation continue depuis 5000 ans. Alors que moi, je croyais savoir l'idéologie communiste était une idéologie révolutionnaire, n'est-ce pas ? Enfin, donc une idéologie de rupture.
De rupture. Bon,
ce qu'elle a été avec le maoïsme, ça a été vraiment ça. Enfin, on a fini de tout détruire. Bon, très bien. Enfin, très bien. Je suis ironique ici, mais donc là, nous avons la suite, c'est-à-dire en fait une reconstruction d'un fil continu, complètement mythique, fictif, enfin
jusqu'à Confucius, oui. Qui a retrouvé place au cœur de la
exactement,
doctrine de Xi Jinping.
Exactement. Alors bien sûr, Confucius, c'est une pièce maîtresse du dispositif, et tout ça justement pour faire pièce donc aux démocraties occidentales et leur dire écoutez, vos droits de l'homme, etc., c'est pas dans notre civilisation, nous on a autre chose à proposer. Alors ce qu'ils ont à proposer, moi j'attends toujours de voir exactement ce que c'est, hein, parce que bon, j'ai montré dans mon cours cette année que on se gargarise justement de ce mot de civilisation. Bon, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on a exactement? C'est une sorte de mélange de valeurs dites socialistes avec au fond des valeurs capitalistes, hein. Et je ne vois pas très bien ce qu'il y a de très original ni de très nouveau là-dedans. Hein.
C'est un système un peu ad hoc, hein, qui a été construit comme ça. Juste, il nous reste quelques minutes, revenir à la question ouïghour que vous avez évoquée, Anne Chang, et qui est présente aussi dans cet ouvrage collectif « Penser en Chine ». On a entendu récemment le témoignage, j'espère ne pas écorcher son nom, de Gulbahar Aitiwaji, qui a été enfermé 3 ans dans les camps de rééducation chinois et qui raconte cette histoire-là dans « Rescapé du goulag chinois » aux éditions Équateur. Elle parle d'un génocide culturel qui se joue là-bas. Là encore, quels sont les enjeux ? Pourquoi cette entreprise, pour préserver quoi ? La sinuosité, une fois encore, l'enjeu est culturel dans cette entreprise génocidaire.
Oui, j'aime bien votre mot sinuosité. Oui, enfin,
alors c'est celui
sinuosité.
c'est sinueux. C'est bon. Celui de Magnus, oui. Fils, oui. Qui cite chez vous dans Penser en Chine une contribution.
Oui. Disons que pour faire vite, je crois que le territoire des Ouïghours, donc dans le Grand Ouest chinois, a le malheur de se trouver juste, si j'ose dire, au tout début de la nouvelle route de la soie, dont Xi Jinping donc a lancé l'entreprise quand il a pris le pouvoir en 2012. Donc si effectivement vous sortez de la Chine par l'ouest vers l'Asie centrale et ensuite plus loin vers l'Europe, en fait vous tombez pile poil sur le Xinjiang et sur les Ouïghours. Donc vous voyez ils ont le malheur de se trouver là. Donc par conséquent, il s'agit véritablement de les neutraliser complètement. Et là, je pense que ça vient doubler aussi une obsession, je pense, du pouvoir central chinois actuel d'imposer justement une identité chinoise entièrement construite et homogène.
On revient à ce récit national que vous évoquiez oui. à l'instant. Mmh. Merci beaucoup à vous, Anne Chang, d'avoir été avec nous, penser en Chine pour y parvenir, ou pour penser la Chine aussi, si je reprends cette figure miroir. Il fallait enquêter ensemble ce que vous faites dans cet ouvrage collectif qui paraît aux éditions Folio dans la collection Essai. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous.